Voilà, nous voilà ensemble pour la lecture et la méditation des Écritures. Et nous commençons aujourd'hui un nouveau cycle. Un nouveau cycle, nous allons reprendre Néhémie hein, au mois de janvier, au cours du mois de janvier. Mais d'ici là, donc, nous commençons un nouveau cycle sur Noël. Chaque année, nous essayons de voir Noël sous un angle un peu différent. Bien sûr, il y a des choses qui se recoupent, mais aujourd'hui, cette année, c'est plutôt le Noël « N'ayez pas peur hein, ». N'ayez pas peur. N'ayez pas peur car je vous annonce une grande nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle de Noël hein, qui nous invite à ne pas avoir peur. Et cette peur, donc, elle est partout. Hein. Elle est partout aujourd'hui, mais elle est partout déjà à l'époque hein, du Christ. Et Noël, c'est l'histoire de personnes ordinaires vivant avec des peurs bien humaines, dans un monde qui ressemble étrangement au nôtre. C'est dans ce monde, là, hein, dans ce monde-ci, que la bonne nouvelle a retenti. Et elle retentit encore aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous présenter ce matin, donc, un couple qui devait trouver le temps long, le temps très, très long. Un couple pour qui le temps était une épreuve. Un couple à qui le temps faisait particulièrement peur. Alors, ce couple, c'est Marie, c'est Zacharie, je veux dire, et sa femme, Élisabeth. Le mari s'appelle Zacharie, la femme, Élisabeth. Et nous lirons donc leur histoire avec quelques versets simplement, hein, en Luc 1, 24-25, 39-45 et 57-61. Hein, le reste, vous pourrez le lire chez vous. Alors, tout d'abord, les versets 24 et 25. Quelque temps après, donc c'est après l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à son père Zacharie, quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte. » Ma honte, il faut bien souligner le mot, ma honte parmi les hommes. Et puis, on peut ajouter les versets 39 à 45, ce qu'on appelle la visitation, la visite de Marie à Élisabeth. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et puis, troisième petit passage, toujours dans ce chapitre 1, dans les versets 57 à 61. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins, ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde et se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent circoncire le petit enfant et ils l'appelaient déjà Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. Dieu fait grâce. » Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Seigneur, éclaire nos yeux pour que nous puissions voir et comprendre la profondeur de ta parole. Amen. Alors, il y a plusieurs peurs. On a dit qu'on lirait ce texte à la lumière de nos peurs. Les peurs de Zacharie et d'Élisabeth, on pourrait dire, comme titre. Alors, il y a plusieurs peurs. D'abord, il y a la peur d'être différente. En effet, Élisabeth est la femme du sacrificateur Zacharie. Elle est la descendante d'un sacrificateur, donc nous qui avons lu Néhémie pendant tout ce trimestre, nous savons qu'il y a eu un certain nombre de sacrificateurs, de personnes fidèles qui sont rentrées d'exil, qui ont accompagné Zorobabel d'abord et Josué, hein, le sacrificateur, puis ensuite avec Esdras, avec Néhémie, avec les prophètes Zacharie, Malachie. Et donc, elle fait partie de cette lignée de sacrificateurs fidèles, hein, qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes, qui ont beaucoup sacrifié depuis plusieurs centaines d'années. Et donc, elle est la descendante, hein, de personnes fidèles au Seigneur. Et donc, logiquement, elle devrait être bénie par le Seigneur l'Éternel. C'est comme ça qu'on pensait à l'époque. Malheureusement, elle était stérile. Et elle était considérée donc comme maudite selon la société d'alors. Elle a donc dû se faire, elle a donc dû se faire à la honte d'être anormale. Non pas seulement le regard des autres qu'elle a dû affronter, mais son propre regard sur sa situation. Elle se sentait anormale. Elle ne pouvait pas donner une descendance à son mari. Et elle avait en plus la peur d'être rejetée par sa famille, hein, et par son mari surtout. Il y a des déceptions qui laissent des traces profondes dans nos vies. Avec le temps, des fois, ça semble un petit peu s'apaiser. Et la blessure se réveille, par contre, dans nos vieux jours. Et des fois, nous la portons, hein, jusqu'au bout. Quand l'ange annonce à Zacharie que la honte va disparaître, eh bien, il ne croit pas dans un premier mouvement. Il ne croit pas la chose. Il croit qu'il a la berlue. Il croit qu'il... Et il se méfie, hein, des manifestations étranges dans le temple. Après tout, il est en train de mettre de l'encens dans l'autel, sur l'autel des parfums, dans le temple. C'est un moment d'exaltation, hein, pour tout sacrificateur. Bon, il n'y croit pas. Il a bientôt 50 ans, parce que c'est à 50 ans que les sacrificateurs prenaient la retraite, donc il a un peu moins de 50 ans, et il a déjà vu et entendu beaucoup de choses. Il a été trop déçu dans la vie. Ses amis, ses meilleurs amis, lui ont assuré, par exemple, certainement, que s'il priait, que s'il se repentait, que s'il offrait des sacrifices, il aurait un fils à coup sûr. Mais ce n'est pas arrivé. L'espoir a été relancé plusieurs fois, tant de fois, mais c'est jamais arrivé. Et Zacharie, donc, aujourd'hui, n'a plus d'espoir. Zacharie, on ne va pas le juger, on ne juge pas. On le comprend très bien et on l'admire quelque part. Parce que sa déception ne l'a pas empêché de vivre pour Dieu, hein, de façon irréprochable, d'être fidèle à Dieu dans le temps et dans le cours des années. La Bible dit qu'ils étaient justes aux yeux de Dieu et qu'ils observaient toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. C'est-à-dire, ils marchaient, personne n'est juste totalement aux yeux de Dieu, mais ils marchaient dans le chemin de la justice, dans l'obéissance au commandement de Dieu, avec tout leur cœur, toute leur force. Et ils étaient tous les deux justes aux yeux de Dieu pour leur foi et pour leur foi obéissante. Et malgré l'épreuve, ils sont restés fidèles, fidèles à Dieu, mais fidèles l'un à l'autre, ce qui n'était pas évident. Il n'y a pas eu de relâchement dans leur pratique religieuse. Ils connaissaient bien la loi de Dieu et ils la mettaient en pratique. Et on comprend donc à travers lui et à travers eux que Dieu n'est pas limité par nos déceptions. Élisabeth, comme Zacharie, les hauts et les bas de ce couple n'ont pas empêché Dieu d'agir dans leur vie et à travers eux, dans la vie de son peuple et dans la vie du monde, puisque jusqu'aujourd'hui, cette parole de Dieu retentit parmi. Alors, peur d'être différente. Une autre peur, c'est la peur pour Israël. Alors là, c'est un petit peu plus difficile à comprendre pour nous. Il y avait autre chose de plus difficile à avouer. Zacharie avait également peur d'être un peu le symbole du peuple d'Israël, qui aurait dû produire des fruits, mais qui restait stérile. Depuis la création du monde, on attendait le Messie, on attendait celui qui serait né d'une femme, qui écraserait la tête du serpent. C'était la prophétie qui avait été faite à Ève, à Adam et Ève, juste après la chute, Genèse 3. Et donc, on attendait, hein, chaque génération, est-ce que le Messie va naître? Est-ce que cet enfant qui va naître sera le Messie? Et cette attente était relancée, hein, par les promesses faites à Abraham, hein, autour de 2000 ans avant notre ère, relancée par les lois de Moïse, hein, 1200 ans, par David, 1000 ans avant Jésus-Christ. Et les paroles ensuite des prophètes, hein, 700 ans, 500 ans, on arrive à Zacharie. Hein. Zacharie, c'est à l'époque de Néhémie. Hein. On arrive à Malachie, à l'époque de Néhémie, vers 400 ans avant notre ère. Et justement, depuis 400 ans, depuis le dernier prophète de l'Ancien Testament, depuis Malachie, le peuple attend le retour du Messie. Et il attend surtout le retour d'abord du prophète Élie, le précurseur du Messie. Le prophète Malachie avait annoncé vers 400 ans avant Jésus-Christ. Et il n'y avait toujours pas d'Élie à l'horizon. 400 ans. Et évidemment, c'est inimaginable pour une vie humaine, 400 ans. C'est plusieurs vies humaines. Mais 400 ans pour un peuple, c'est énorme. Le peuple attend encore plus la venue du roi dont Élie serait simplement le précurseur. Et donc, ils attendent la venue de ce Messie, un roi grand et glorieux qui viendra relever la dynastie de David, hein, qui est vraiment dans la misère, hein, qui a disparu depuis plus de 500 ans, depuis l'exil. Une seule promesse parlait d'un nouvel Élie, hein, d'un précurseur du Messie. Mais de nombreuses prophéties annonçaient un nouveau David, un Messie, donc un fils de David. Et cela faisait donc, comme j'ai dit, des siècles que le peuple l'attend. Il attend avec d'autant plus d'angoisse que le pays a perdu son indépendance, hein, qu'il est sous le joug cruel, à la fois gouvernemental et religieux, hein, de l'Empire romain. Et venu à son terme, et donc cette attente est venue à son terme du temps de Zacharie et d'Élisabeth. Il y a autour d'eux, hein, tout un peuple d'Israélites, hein, qui attend avec ferveur la venue de ce Messie. Et l'apôtre Paul dit aux Galates, en Galates 4, versets 4 et 5, « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. » Lorsque les temps furent accomplis. Heureusement, Dieu donc a fait d'une pierre deux coups, en intervenant à la fois pour son peuple et pour Élisabeth avec la conception de Jean-Baptiste. Rien n'a pu empêcher Dieu d'agir dans leur vie, à travers eux, dans la vie de son peuple et dans la vie du monde aussi. Et leur fils Jean, hein, qu'on va surnommer Jean-Baptiste, sera le précurseur du Messie tant attendu. Ça sera lui, le nouvel Élie, hein, qui annonce la venue de son Seigneur, du Messie. Alors, ce n'est pas seulement Élisabeth qui va devenir enceinte, qui est devenue enceinte, qui va attendre 9 mois pour accoucher de Jean, un Baptiste. Le temps lui-même vient d'accoucher. Les temps sont accomplis. Le temps lui-même est sur le point d'accoucher. L'histoire de l'humanité est sur le point d'arriver à son terme. Et donc, ce n'est pas la fin d'une chose, hein, c'est vraiment le commencement, hein, d'une nouvelle ère. Alors, il y a une troisième peur. Une troisième peur, c'est la peur d'être inutile. Alors, eux, ils se sentaient déjà âgés. On n'oublie pas qu'autour de 40, 50 ans, on était déjà très âgés à l'époque, hein, extrêmement âgés. Il faut en multiplier par deux, hein, aujourd'hui, 80, 90. Peut-être plus. Hein. Et donc, ils se sentaient sans doute âgés et inutiles. Et eux qui se sentaient sans doute inutiles seront deux prophètes, hein, placés sur le chemin de leur peuple et de Marie en particulier, et qui seront pleins d'encouragement, hein, pleins de consolation. Alors, Zacharie, on ne l'a pas lu, mais il va, après avoir retrouvé la parole, il va chanter ce qu'on appelle le Bénédictus, hein, le cantique de Zacharie que vous trouvez dans vos Bibles juste après, et qui commence et qui dit hein, deux choses. Il dit d'abord, toi petit enfant, hein, Jean-Baptiste, Jean, toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Donc il annonce que ce petit enfant, conformément à ce que le Seigneur a dit, sera le précurseur du Messie, le Messie qui sera le Très-Haut, qui sera Dieu lui-même, qui sera un homme, mais Dieu lui-même également. Et puis, dans le même cantique de Zacharie, Zacharie dit, il bénit Dieu de façon magnifique, hein, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. Donc, il annonce que juste après, il y aura la venue du Messie, qui sera fils de David, qui apportera le salut, hein, qui apportera le salut tant attendu. Donc, c'est un merveilleux prophète hein, qui se base sur ce que le Seigneur a dit hein, pour annoncer à son peuple une parole d'encouragement, une parole de foi. Mais Élisabeth aussi, c'est une prophétesse. Hein, et on l'oublie parfois, hein. Marie, donc, vient vers elle. Marie avait besoin de soutien moral. Hein. On le comprend hein, après l'annonce extraordinaire hein, faite par l'ange Gabriel qu'elle serait la mère du Messie. Elle a besoin, alors qu'elle est vierge, elle avait besoin de soutien moral. Marie se rend hâte au pays des montagnes de Juda et après une marche pénible de plusieurs jours, elle arrive enfin. On peut dire quelle élévation morale dans le récit de leur rencontre. À la salutation de Marie, le petit enfant tressaille de joie dans le ventre d'Élisabeth. Elle est remplie, hein, remplie de Saint-Esprit. Et elle parle de la part de Dieu. Et Élisabeth salue Marie avec intelligence, une intelligence spirituelle qui vient de l'Esprit Saint. Et avec aussi l'adoration, une admiration extraordinaire. Elle dit, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? C'est extraordinaire cette salutation. La mère de son Seigneur, elle appelle Marie la mère de son Seigneur. La mère de son Seigneur est devant elle. Son Seigneur est devant elle. Et donc elle adorait l'enfant qui allait naître. Elle se reconnaissait placée devant une personne, le Seigneur lui-même. Et elle est dans l'admiration, comme autrefois Josué, en Josué 5, qui se prosterne quelque part, parce que le Seigneur est là, juste avant la conquête. Josué 5, verset 14. Comme David dans le psaume 110, qui reconnaît prophétiquement hein, la venue du Messie, comme plus tard Marie de Magdala, hein, qui est en Jean chapitre 20, hein, qui va aussi hein, adorer le Seigneur ressuscité, comme Thomas qui va dire « Mon Seigneur et mon Dieu », Jean 20, comme Paul aussi sur le chemin de Damas. Eh bien là, elle reconnaît devant elle, qu'elle est passée devant une personne, le Seigneur, son Seigneur. Et donc, pour être vraiment utile aux autres, pour être vraiment il faut être décentré de soi-même. Et Élisabeth est décentrée d'elle-même. Élisabeth est sans la moindre trace de jalousie. Elle pourrait être jalouse de Marie, qui est la mère du Messie. Elle est seulement la mère du précurseur du Messie. Vous savez, on est jaloux pour moins que ça, hein. Et nous sommes des fois jaloux pour des peccadilles. Là, il y aurait une raison d'être jaloux un peu. Mais Élisabeth n'est pas jalouse. Elle est décentrée d'elle. Élisabeth entrevoit la supériorité des grâces attribuées à Marie. Et elle lui adresse, elle n'est pas amère, elle lui adresse un encouragement précieux. Elle dit, bienheureuse est celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Marie avait besoin de cet encouragement. C'était tellement extraordinaire la promesse qui lui avait été faite. Elle lui annonce que ça va s'accomplir, mot pour mot, et que ça sera pour elle, sa foi se transformera en grande joie. La foi est accompagnée hein, de joie, hein, comme souvent hein, dans la vie chrétienne. Et donc, c'est ce qu'elle annonce hein, à Marie. Alors, elles vont rester ensemble 3 mois. On est au 6e mois. Marie va partir juste à la naissance de Zacharie. 3 mois. Hein. Eh bien, à rester ensemble sans la télé, hein, sans Internet. J'exagère, mais pour dire qu'elles avaient la parole de Dieu. Elles vont rester ensemble et qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont certainement, Élisabeth et Marie vont chercher dans les Écritures les prophéties concernant la venue du Messie, hein, concernant la venue du précurseur du Messie. Et lors de ces entretiens avec Élisabeth, en méditant les Écritures avec Marie, donc l'Esprit du Seigneur a appris à Marie maintes lumières hein, quant à la personne et à l'œuvre de Jésus, hein, du Messie. Et de là va sortir certainement pour Marie une volonté d'adhésion hein, au plan de Dieu toute neuve. Elle a déjà dit hein, que la volonté de Dieu soit faite, hein, je suis prête. Mais maintenant, elle est motivée, elle est enrichie, elle est nourrie par la parole de Dieu. Et elle a une volonté d'adhésion au plan de Dieu toute neuve. Elle a un élan d'obéissance renouvelé. Elle a de la force pour sa mission. Et tout ça, c'est le produit hein, de la rencontre avec Élisabeth. Et Élisabeth et Zacharie avaient peur d'être inutiles, mais il n'en a rien été. Ils ont été des prophètes qui ont encouragé, qui ont averti, qui ont consolé le peuple de Dieu et Marie en particulier. Alors, il y avait une autre peur, c'est la peur du regard des autres. On sait bien hein, que voilà, ce vieux couple qui a maintenant un enfant, alors qu'ils sont vieux, et avoir un enfant à l'époque quand on est déjà bien vieille, on a de la peine à imaginer quelle épreuve ça a pu être pour Élisabeth. Aujourd'hui, il y a des gens âgés hein, qui peuvent enfanter. La société a évolué hein, de regard. Mais quand même, imaginons quelqu'un de 90 ans aujourd'hui hein, qui a un enfant, qui n'a jamais eu d'enfant dans ses bras ou très peu, hein, qui doit apprendre des choses que la plus jeune des jeunes femmes sait hein, et qu'elle fait de façon alerte et efficace. Hein. Et donc, la peur du regard des autres, la peur des réactions des autres. Cette peur a été vite, on l'a dit, contrebalancée par une joie, une espérance énorme. Même à son âge, hein, il y avait encore des choses extraordinaires à vivre, à découvrir. Et donc, cette grossesse miraculeuse, ce regard bienveillant de Dieu sur sa vie, cette communication intra-utérine avec son bébé hein, et celui de Marie, ou les paroles prononcées par l'Esprit Saint, etc. Toutes ces choses hein, nouvelles ont contrebalancé certainement le regard des autres. Ces expériences ont fait passer Élisabeth encore une fois de la honte à l'assurance. Et cela se voit particulièrement quand il a fallu donner un nom au bébé. Alors bien sûr, il faut faire un effort nous ici. À l'époque, le nom du bébé, c'était le nom de la lignée. Hein, Zacharie, le fils de Zacharie devait s'appeler Zacharie, fils de Zacharie, fils de Zacharie, fils de Zacharie. On s'est toujours appelé Zacharie, on s'appellera toujours Zacharie. Mais non, mais là, il y a la nouvelle alliance qui pointe son bout. Il y a une nouvelle ère qui arrive. Et donc, il y a un nouveau nom. Et c'est l'ère de la grâce. Et donc, ce fils s'appellera Jean. Dieu fait grâce. Et alors que la pression sociale voulait imposer Zacharie Junior, Élisabeth tient tête à tout le monde en voulant l'appeler Jean, conformément aux instructions de l'ange données à son mari. Elle était à contre-courant. Elle était à contre-courant parce que stérile et maintenant à contre-courant parce que bénie de Dieu. Et sa position restait délicate. Mais maintenant, Élisabeth est heureuse parce que Dieu est intervenu en sa faveur. Hier comme aujourd'hui, sa position n'a pas changé. Elle veut faire la volonté de Dieu. Elle veut marcher dans l'obéissance hein, à sa parole. Alors, appartenir, ça nous rappelle qu'appartenir à Dieu, hein, c'est pas toujours marcher dans une vallée de roses. Hein. Appartenir à Dieu a un côté merveilleux, c'est vrai, mais cela implique aussi d'affronter le regard des autres, hein, de se démarquer du reste de la société, de ce que la Bible appelle le monde, hein, avec ses pressions énormes. Au lieu de se conformer donc au monde présent, hein, il faut qui a ses propres valeurs, qui a ses propres buts, ses propres motivations, où Dieu n'a pas de place, eh bien, il faut se laisser transformer par le Saint-Esprit et par sa parole, et accepter d'être anormal. Alors, peut-être, hein, qu'il est plus facile de se démarquer quand on est vieux et avancé en âge, hein, et quand on est vieux et désabusé, hein, par la vie, comme Élisabeth. Quand on est jeune, on est encore naïf, on a des illusions, hein. Les illusions de ce monde n'ont pas encore apporté leur lot de déceptions, en tout cas. Mais c'est quand même toujours difficile, hein, de se démarquer. Et finalement, la bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle, n'est une bonne nouvelle que pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui en ressentent le besoin profond. Et quand on comprend cette bonne nouvelle, quand elle nous saisit, eh bien alors tout pâlit autour d'elle, à côté d'elle. Alors le regard étonné des autres, hein, eh bien, n'est rien à côté de cette bonne nouvelle. Le regard étonné ou inquisiteur des autres, à côté de cette bonne nouvelle, ce n'est qu'une piqûre de moustique, hein, ce n'est rien. Donc, on peut ramener toutes ces peurs à nous maintenant, pour finir. Et nous, de quoi avons-nous peur? On a peur un peu de toutes les choses qu'on a citées. Et l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth peut nous aider. Elle peut nous aider foncièrement à vivre dans le présent. Et on en a besoin, parce qu'aujourd'hui, on vit dans l'attente. On vit dans l'attente de la fin du confinement. On vit dans l'attente de beaucoup de choses. Et dans l'attente, eh bien, il ne faut pas s'arrêter de vivre. Voilà ce que nous dit Zacharie et Élisabeth. Nous avons attendu longtemps, ça ne nous a pas empêché de vivre. Le texte ne nous dirait pas qu'ils étaient justes devant Dieu s'ils avaient cessé de travailler pour Dieu, de prier, de méditer la parole de Dieu, de s'ouvrir aux autres, de vivre leur foi, on dirait aujourd'hui, de s'engager. Dans l'attente de ce bébé qui ne venait pas, ils continuent à vivre. Et c'est aussi l'enjeu pour nous. Nous pourrions être tellement portés vers le futur, vers la reprise d'une vie normale, soi-disant, que le présent s'en trouverait gâché. En attendant les lendemains pleins d'incertitudes, hein, il faut bien s'occuper d'aujourd'hui et vivre aujourd'hui à la gloire de Dieu. Zacharie et Élisabeth continuent à vivre pour Dieu alors que l'avenir leur fait peur. Un certain nombre d'entre nous ont dû renoncer, hein, aussi à des espoirs. Il a fallu accepter de vivre dans un monde imparfait. Au-delà de l'espoir, Zacharie et Élisabeth restent fidèles, irréprochables. Le passé, hein, c'est-à-dire tout ce qui aurait pu être, tout ce qui n'a pas été, hein, tout ce qui aurait dû être, ne les paralyse pas. Ils vivent l'aujourd'hui. Hein, ils vivent leur aujourd'hui à la gloire de Dieu. Et donc, l'histoire de Zacharie et Élisabeth nous fait découvrir aussi, hein, et là je serai bref, le côté surprenant des voies de Dieu. On n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, comme on dit en Belgique. Et il y a, Dieu se plaît, et on le sait. On le sait dans notre propre vie. On le sait parfois par des témoignages aussi. On le sait dans la parole de Dieu. On le sait que Dieu a un côté surprenant, que les voies de Dieu ont un côté surprenant. Dieu se plaît à provoquer des inattendus. Il aime inventer des possibles alors qu'on marchait dans l'impossible. Et donc, il aime programmer des choses qu'on n'a pas programmées, qui sont improgrammables, comme la venue de cet enfant. Avec Dieu, on ne peut jamais dire que les jeux sont faits. Une surprise est toujours possible. Et donc, voilà ce que nous apprennent aussi Zacharie et Élisabeth. Bien sûr, nous ne sommes ni Zacharie ni Élisabeth, nous ne vivons pas à leur époque, nous ne serons pas les parents du précurseur du Messie, mais on peut transposer ça à nos propres vies. La bonne nouvelle qui a transformé leur vie peut aussi transformer la nôtre. Alors concluons, Comment gérons-nous l'incertitude de l'avenir? On vivra toujours avec l'incertitude. Même si le confinement prend fin, eh bien, il y aura autre chose. Et donc, comment gérons-nous l'incertitude de l'avenir? On pourrait le faire en négligeant le présent. Mais ce n'est surtout pas ça qu'il faut faire. Zacharie et Élisabeth n'ont pas fait comme ça. Ils ont vécu pour Dieu ici et maintenant. L'intervention surprise de Dieu, le retour du roi, du retour du Messie que nous attendons, nous aussi, ça peut être pour bientôt. Mais aujourd'hui, en attendant le retour de Jésus, aujourd'hui, au milieu de mes déceptions, au milieu de mes attentes aussi, je veux vivre pour Dieu, être juste à ses yeux, marcher dans ses chemins, obéir à sa parole. Amen.